Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand l'humilité devient un acte politique. Une chronique d'Alain Rey, publiée dans la presse du 15 janvier 2026. En annonçant qu'il quittera la tête de la CAQ tout en demeurant en poste jusqu'à la nomination de son successeur, François Legault pose un geste qui mérite d'être lu autrement que sous l'angle du calcul politique ou de l'usure du pouvoir. Il pose un geste d'humilité. En politique, le pouvoir s'accompagne rarement d'humilité. Il nourrit plutôt la conviction intime que l'on est toujours la bonne personne, la meilleure personne, que l'on peut tenir plus longtemps que les autres, que l'on a l'énergie, la lucidité et le jugement nécessaires pour mener le navire à bon port. Reconnaître le contraire est sans doute parmi les choses les plus difficiles pour un chef de gouvernement. Après près de 2 mandats à la tête d'un gouvernement majoritaire, François Legault en est venu à la conclusion qu'il n'était peut-être plus la personne toute désignée pour présider aux destinées du Québec, qu'un autre pourrait être mieux placé que lui, que le message de la population, parfois diffus, parfois brutal, souvent inconfortable, avait fini par s'imposer. Entendre cette invitation à partir n'a rien de facile quand on occupe la plus haute fonction politique au Québec. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Pour accéder au sommet de la pyramide politique, pour aspirer à exercer un pouvoir aussi vaste que celui qui incombe au premier ministre, il faut nécessairement une très grande estime de soi, un ego solide, une conviction profonde d'être capable d'affronter les crises, de trancher, de diriger, de porter sur ses épaules les attentes d'une société entière. On ne gouverne pas au plus haut niveau en doutant constamment de soi. Cette confiance absolue n'est pas un défaut, mais elle comporte un revers. Plus les années passent, plus on monte haut, plus il devient difficile d'admettre que l'heure de partir est venue. Plus la fonction est grande, plus le renoncement devient lourd. Il faut aussi ajouter un élément qui rend cette décision encore plus exigeante. François Legault ne quitte pas seulement la tête d'un gouvernement. Il se retire du parti qu'il a lui-même fondé. Un parti né d'une vision, d'un pari politique, d'un désir de faire autrement. Se détacher d'un projet que l'on a bâti, porté et incarné pendant des années n'a rien d'anodin. Ce n'est pas simplement passer le relais à un successeur, c'est accepter que l'œuvre nous dépasse, qu'elle va devoir continuer sans nous. Et reconnaître cela pour un fondateur demande une humilité encore plus grande. Lorsqu'on est premier ministre, on vit par ailleurs dans un paradoxe permanent. On est entouré, conseillé, soutenu, mais aussi isolé. À force de gouverner, une bulle se forme inévitablement. On finit par entendre davantage ceux et celles qui sont proches que ceux qui sont loin. On perd graduellement nos repères. On interprète les signaux à travers le filtre du pouvoir. C'est souvent là que les carrières politiques dérapent. Trop de dirigeants s'acharnent, convaincus qu'ils peuvent encore renverser la vapeur, jusqu'à ce que la population tranche. Et le verdict peut être dévastateur. La sortie se fait alors dans la défaite, parfois dans l'amertume, souvent dans l'humiliation publique. Non pas parce que tout a été mal fait, mais parce que le moment de passer le flambeau a été mal lu. À une autre échelle, évidemment, j'ai moi-même connu ce moment de réflexion lorsque j'ai quitté les fonctions électives comme maire de Victoriaville ou plus tard comme député fédéral. Ce n'est jamais une décision facile. On est convaincu qu'on peut encore donner, encore corriger, encore améliorer. Et pourtant, vient un moment où l'on sent que le bon geste n'est plus de s'accrocher, mais de céder la place. Non pas par lassitude, mais par respect pour la fonction et pour ceux qu'elle sert. Ce geste n'efface ni les succès ni les échecs des dernières années. Il ne réécrit pas l'histoire. Mais il rappelle quelque chose d'essentiel dans une époque marquée par le cynisme. Partir n'est pas toujours fuir. Parfois, partir, c'est respecter l'institution, la population et son propre parcours. L'humilité n'est pas une faiblesse en politique. Elle est peut-être, au contraire, l'une des qualités les plus exigeantes dans l'exercice du pouvoir. Et, surtout, l'une des plus importantes. Fin de cette chronique d'Alain Rey, titrée « Quand l'humilité devient un acte politique », publié dans Le Devoir du 15 janvier 2026.
Il y a 40 ans, le vieux Québec entrait au Panthéon de l'UNESCO. Un texte de Sébastien Tanguy paru le 2 décembre 2025 dans Le Devoir. L'UNESCO reconnaissait, il y a 40 ans, la « valeur universelle exceptionnelle de l'arrondissement historique du Vieux-Québec ». Cette accolade onusienne à l'égard du berceau de l'Amérique française a non seulement fait briller aux yeux du monde la beauté de la capitale québécoise, mais aussi forgé son identité au fil du temps. Le 3 décembre 1985, Québec devenait la première ville d'Amérique au nord de Mexico à recevoir la reconnaissance officielle de l'UNESCO. Les 135 hectares de son arrondissement historique, juchés sur le promontoire du Cap Diamant et étalés jusqu'à la place Royale et au Vieux-Port, formaient aux yeux de l'organisation un ensemble urbain cohérent et bien préservé, doublé d'un exemple exceptionnel de ville coloniale fortifiée, encore inégalée au nord du Rio Grande. Québec, ville de 185 000 âmes il y a 40 ans, rejoignait alors un panthéon peuplé par les plus belles réalisations de l'humanité, les pyramides d'Égypte, le château de Versailles, le mont Saint-Michel, le centre historique de Florence, entre très nombreux autres. À ce jour, seul le vieux Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, partage cette reconnaissance onusienne au Canada et Québec héberge le siège social de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, OVPM. C'est indéniable que cette désignation a donné une plus-value identitaire à la ville et à sa population, croit Laurier Turgeon, directeur de l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval. Ça a permis de développer un sentiment d'appartenance plus fort, je pense, envers Québec. Ça a augmenté considérablement la fierté de l'ensemble des citoyens de Québec vis-à-vis leur vieux Québec, renchérit Serge Viau, directeur de l'urbanisme de la ville à l'époque de la désignation. Ça a suscité une sorte de prise de conscience nouvelle. Les gens acceptent que nous soyons beaucoup plus sévères et rigoureux dans les interventions que nous faisons. Un patrimoine vivant. L'UNESCO a reconnu le caractère patrimonial de la capitale québécoise sans pour autant la figer dans le temps. Cette ville-là n'est surtout pas un musée. Elle est vivante et adaptable, dit M. Viau. Hors de question, toutefois, de massacrer une trame urbaine reconnue par l'ONU par des bâtiments incongrus. C'est beaucoup plus coûteux d'intervenir dans le Vieux-Québec que dans n'importe quel autre quartier, souligne Serge Viau. Je pense que les gens se plient à cette réalité. Les interventions faites dans le Vieux-Québec sont souvent très réfléchies, les designs sont toujours assez bien élaborés, et les architectes plutôt créatifs. L'arrondissement historique fait toutefois face à plusieurs problèmes bien modernes propres aux villes patrimoniales. Le surtourisme, notamment, oriente le commerce vers une clientèle passagère, souvent au détriment de la population locale. Le Vieux-Québec, par exemple, ne comporte aucune école publique et compte plus de confiseries que d'épiceries. Cette augmentation du tourisme apporte beaucoup d'argent aux hôtels et aux restaurateurs du Vieux-Québec, mais ça a tendance à faire mourir l'âme du quartier, explique Laurier Turgeon. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la situation de Venise, qui est l'exemple qu'il ne faut pas citer. Elle a perdu les deux tiers de sa population. Il y a un tourisme galopant et les résidents continuent à fuir la ville. Prendre soin de Québec. Si l'UNESCO octroie des reconnaissances, elle peut aussi les retirer. Dresde a perdu la sienne en 2009 à cause d'un pont qui défigurait la vallée de l'Elbe aux yeux de l'organisation. Liverpool figure aussi sur le podium des délistés. Depuis 2021, en raison d'un vaste développement immobilier qui a entraîné la perte irréversible des attributs de son centre historique et de ses docks. La désignation fait en sorte, surtout avec le risque de la perdre, que nous avons un impératif encore plus catégorique de s'occuper de notre patrimoine, croit l'actuel maire de Québec, Bruno Marchand. Je pense qu'elle a dit aux gens de Québec « Surveillez vos politiciens » et surveillez les gens qui naviguent autour de votre vieux Québec. Il y a là un joyau confirmé par l'UNESCO, et ça nous oblige à en prendre soin. Laurier Turgeon croit cependant qu'il n'appartient pas seulement à la sphère politique de préserver et de mettre en lumière la valeur patrimoniale de Québec. L'Université Laval a un rôle plus important à jouer, estime celui qui y est professeur d'histoire et d'ethnologie. Il y a beaucoup de recherches archéologiques, mais sinon, sur les questions clés et les grands enjeux qui concernent le Vieux-Québec, je pense qu'il y a un déficit de recherche. Il faut aussi valoriser la ville au regard de ses propres habitants, ajoute-t-il. Il y a quand même une partie importante de la population qui ignore complètement que Québec a reçu la désignation de l'UNESCO. Ça mériterait d'être davantage mis en lumière. Les célébrations entourant le 40e anniversaire de l'inscription de Québec permettront de la faire rayonner. C'était, il y a 40 ans, le vieux Québec entrait au Panthéon de l'UNESCO. Un texte de Sébastien Tanguy, paru le 2 décembre 2025 dans Le Devoir.
Un toit abordable ou son animal de compagnie. Le véritable dilemme des locataires. Un texte de Alex Sinam-Bogmis, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada. Entre les règlements sans animaux du logement social et les loyers prohibitifs du secteur privé, de nombreux Saskatchewanais doivent choisir entre un toit abordable et leur compagnon fidèle. Valérie Volochen s'apprête à prendre sa retraite cet été. Pour vivre dignement avec un revenu fixe à Saskatoon, elle doit emménager dans un logement social. Toutefois, un obstacle de taille se dresse devant elle. Buddy, son chat. Le logement auquel elle a droit interdit les animaux de compagnie. Aujourd'hui, Madame Volochen doit faire un choix difficile. Rester en Saskatchewan et se séparer de son chat ou quitter sa famille pour s'installer au Manitoba, où les règles sur les animaux dans les logements subventionnés sont plus souples. Je ne veux pas le laisser partir, mon Dieu, cela me briserait le cœur. Le cas de Madame Volochen n'est pas isolé. Dans un marché locatif de plus en plus tendu, les clauses d'interdiction et les frais supplémentaires poussent de nombreux propriétaires d'animaux au pied du mur. Sandra Archibald, directrice du New Hope Dog Rescue, une organisation à but non lucratif qui s'occupe du sauvetage et du placement de chiens dans le besoin, constate ses conséquences au quotidien. Sur 10 demandes de prise en charge que nous recevons, de 30 à 50% sont dues à des propriétaires incapables de trouver des conditions de logement adéquates. Pour Sandra Archibald, voir des familles séparées de leurs animaux pour des raisons de logement est l'une des choses les plus difficiles à vivre. Une raison de se lever le matin. Au-delà de l'animal, c'est la santé humaine qui est en jeu. Colleen Handel, chercheuse à l'Université de la Saskatchewan, souligne que le lien humain-animal est vital, surtout pour les aînés ou les personnes vivant seules. Souvent, cet animal est celui à qui ils parlent, celui qui leur donne une raison de se lever le matin ou d'aller chez le médecin. Cet animal leur donne une raison de vivre. Elle note que les politiques actuelles ne tiennent pas suffisamment compte de l'impact physique, mental et spirituel d'une séparation forcée. Pour ceux qui réussissent à trouver un logement acceptant les animaux, le parcours reste éprouvant. Claire Paulson, qui vit avec 4 chiens pour l'aider à gérer sa dépression, décrit ses recherches frustrantes. Sur 5 à 7 demandes, une seule acceptait de considérer un animal. Elle a finalement trouvé une maison, mais après avoir dû vendre ses chiens au propriétaire. C'est presque comme un entretien d'embauche pour vos animaux, ironise-t-elle. Aujourd'hui, elle paie un supplément de $25 par mois pour ses compagnons et accepte de vivre dans une maison moins moderne, car rester avec ses chiens est sa priorité absolue. Des politiques locales disparates. Interrogée sur cette situation, le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan a précisé que si des politiques provinciales existent pour les animaux d'assistance, ce sont les autorités locales de logement qui sont responsables de développer leurs propres règlements concernant les animaux domestiques. Cette flexibilité permet aux autorités de s'adapter aux besoins de leur communauté. Mais elle crée aussi une incertitude pour des locataires comme Valérie Woloshin. Celle-ci tente désormais de faire reconnaître Buddy comme chat de soutien émotionnel, dans l'espoir que cela lui ouvrira les portes d'un logement social sans avoir à sacrifier son compagnon. Pour faciliter la discussion avec le propriétaire, les défenseurs des animaux suggèrent de constituer un curriculum vitae pour animaux, incluant des références, les dossiers vétérinaires et les preuves de vaccination. Ils recommandent également des rencontres directes pour permettre au propriétaire de voir l'animal et de constater son bon comportement, ainsi que de faire preuve de transparence dès le départ, soit de ne pas cacher l'existence de l'animal et d'ouvrir le dialogue sur le sujet. C'était « Un toit abordable ou son animal de compagnie, le véritable dilemme des locataires », un texte de Alexis Nambogmis, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada.
Pourquoi boire de l'eau? Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 28 décembre 2025 dans Le Devoir. Chaque fin d'année, Google publie le palmarès des recherches de ses utilisateurs. Qu'est-ce que les Québécois se sont demandé cette année? Le Devoir revient sur certaines questions du palmarès en y répondant. Premier arrêt. Pourquoi boire de l'eau? Le corps fonctionne avec de l'eau, avec des liquides. On en a besoin, on n'a pas le choix, répond d'emblée la nutritionniste sportive Cécile Dano en entrevue. On ne peut même pas survivre plus de 3 jours sans boire de l'eau. C'est la base. Finalement, le sang est fait avec de l'eau. Notre digestion fonctionne avec des liquides. Notre température corporelle est capable de se maintenir avec de l'eau. C'est à peu près impossible de s'en sortir sans. La réponse peut donc paraître évidente. Le corps humain a besoin d'eau pour s'hydrater et ainsi fonctionner. Mais, souligne Mme Dano, il est possible d'atteindre un bon niveau d'hydratation avec à peu près n'importe quel liquide. Exception notable pour le café, puisque la caféine est un diurétique, ce qui fait uriner davantage, et l'alcool, qui est déshydratant. À peu près n'importe quel liquide peut hydrater quelqu'un, mais ils ne sont pas nécessairement bons pour la santé non plus, souligne la nutritionniste. On peut s'hydrater avec du lait toute la journée, mais ça va finir par être trop de lait. Le seul liquide qui n'a pas d'effet négatif, c'est l'eau, poursuit-elle. C'est donc la meilleure boisson pour s'hydrater efficacement. Apprendre que la question a été posée par beaucoup de personnes cette année a en quelque sorte surpris Cécile Dallot, qui se serait attendue à avoir davantage de questions sur des nutriments ou des aliments qui ont eu plus d'attention dans les médias que l'eau, comme les protéines ou la vitamine D. Cette dernière voit toutefois d'un bon œil la place de l'eau dans le palmarès, puisque l'hydratation, c'est hyper important, mais on n'en parle pas souvent. Mme Dallot émet l'hypothèse que beaucoup de Québécois s'interrogent sur les divers éléments que l'on peut ajouter à l'eau, comme les poudres et les jus qui lui donnent de la saveur ou encore des vitamines, des électrolytes ou du sucre. Bien que ces ajouts puissent être consommés, ils peuvent devenir nuisibles en excès. La dose limite de chaque individu pour différents produits dépend d'ailleurs de divers facteurs propres à chaque personne, note-t-elle. Des fois, même les bulles dans l'eau gazeuse, ça peut créer de l'inconfort intestinal. Dans son travail, la nutritionniste se fait régulièrement demander par ses clients comment ils peuvent augmenter leur consommation d'eau. Associer l'action de boire à l'eau à une autre, comme manger ou se laver les mains, peut être un bon truc, dit-elle. Se procurer un beau verre qui donne envie de boire, ou bien ajouter des infusions de tisane ou de menthe à son eau peuvent être d'autres moyens pour boire plus d'eau. Les 10 recherches en « Pourquoi » les plus populaires en 2025 au Québec. Pourquoi Amazon ferme au Québec? Pourquoi Israël attaque l'Iran? Pourquoi Zelensky ne porte pas de costume? Pourquoi TikTok est interdit aux États-Unis? Pourquoi Sarkozy va en prison? Pourquoi Taylor Swift a été hué? Pourquoi Justin Trudeau démissionne? Pourquoi il n'y a pas de « salut bonjour » ce matin? Pourquoi voter conservateur? Pourquoi boire de l'eau? C'était « Pourquoi boire de l'eau? » un texte de Léo Mercieros, paru le 28 décembre 2025 dans Le Devoir.
Il était une fois une halte chaleur, un texte de Luc Desjardins, paru le 20 décembre 2025, dans la presse. Luc Desjardins est PDG de l'Itinéraire. Il était une fois, derrière une porte métallique près du Palais de justice, un lieu qui n'existait pas encore, un espace vide, froid, sans histoire. Puis, un soir de novembre 2025, à 19h pile, nous avons tourné la clé et la halte chaleur Lucien Saunier a commencé à respirer. Très vite, on a compris que la ville attendait ce lieu sans le dire. En moins d'une heure, 50 personnes y prenaient place. 50 vies, souvent décrites comme dangereuses, tenues à distance, dont on ne veut pas dans ma cour, ni près de mes enfants. Pourtant, ce soir-là, ce n'était rien de tout cela qui se tenait devant nous. C'était la fatigue, le froid, le besoin. Et dans certains regards, une minuscule étincelle, celle d'être accueilli sans jugement. Nous ne sommes pas naïfs. Oui, l'itinérance peut bousculer, inquiéter, déranger. Les médias adorent répéter que les centres d'hébergement attirent le chaos. Mais venez une nuit à la halte et vous comprendrez ceci. Derrière chaque comportement difficile, il y a une histoire plus lourde que la nôtre. Et derrière chaque situation de crise, il y a aussi un geste qui peut amener un peu de dignité. La halte, c'est 85 chaises à Adirondack, officiellement conçues pour relaxer sur le bord de la piscine ou d'un lac, dans un parc, sur un ponton, officieusement approuvé pour somnoler solide. Dossier incliné juste ce qu'il faut, assise large, accoudoir accueillant. Tu t'assois et ton corps comprend le message avant toi. Ici, pas besoin de compter les moutons. La chaise fait le travail. Ce n'est pas un lit, mais c'est clairement du confort homologué. On pourrait croire que ce sont seulement des places assises. En réalité, ce sont 85 tentatives de recommencer la journée suivante. Ce sont des femmes et des hommes qui essaient encore, malgré tout ce qu'ils ont perdu. On y apprend très vite ce qui n'est écrit dans aucun manuel. Gérer des chaises, ce n'est pas gérer du mobilier, c'est naviguer entre les vies blessées. On explique les règles. Ne pas dormir au sol, ne pas s'allonger sur les bacs, ils cassent, ne pas échanger de place. Pas par rigidité, par sécurité. Pour assurer que personne ne s'effondre dans un angle mort, que les pompiers puissent entrer en cas d'incident, que la dignité collective tienne debout sur ses deux pattes. Puis viennent les premières nuits, les vraies, celle où les portes cognent sans fin. Le bus de la mission Old Brewery, OBM, qui dépose des personnes en détresse. Un homme en hypoglycémie qui demande l'ambulance. Une femme transie que l'on installe au chaud avec des vêtements secs. Un autre usager effondré derrière une porte verrouillée qu'il faut forcer pour lui sauver la vie. Rien de tout cela n'est simple, rien n'est propre, rien n'est parfait. On gère des crises psychotiques, des propos racistes, des conflits, des effondrements. On affronte des refoulements d'égouts à 4 heures du matin, armés de vadrouille et de courage. On administre de la naloxone, on fait des respirations de soutien, on appelle le 911, on rassure, on recadre, on console. Et pourtant, il y a de la beauté. La beauté d'un bénévole, lui-même usagé, devenu indispensable. La beauté d'un merci chuchoté après une overdose évitée. La beauté d'un calme soudain, vers 22 heures, quand tout le monde est enfin installé. La beauté fragile d'un silence où l'on se dit « Au moins, cette nuit, ils dorment au chaud. » On décrit souvent l'itinérance comme une menace. On oublie qu'elle est d'abord une conséquence. Une conséquence de rupture, de trauma, d'un marché locatif inaccessible, de parcours qui se sont écoulés avant même que la société ne les voit tomber. Ce premier mois à la halte nous rappelle une vérité simple. La dignité n'est pas un luxe, c'est un droit. Et elle commence par la nourriture, premier langage de bienvenue. Sandwich, toast tout garni, ramen, fruits, café, chocolat chaud, etc. Et un regard qui dit « Tu comptes encore ». À celles et ceux qui lisent chaque jour que l'itinérance est un danger, sachez que le danger réel, c'est l'indifférence. Le vrai risque, c'est de renoncer à voir l'humain derrière la détresse. Oui, nous sommes lucides. Un lit, un toit, c'est mieux. Oui, certains soirs sont difficiles. Mais entre la peur et l'espoir, nous choisissons l'espoir, parce qu'il bâtit, parce qu'il rassemble, parce qu'il transforme. Il était une fois une halte chaleur. Aujourd'hui encore, chaque soir, la porte s'ouvre pour dire à Montréal « Personne ne devrait affronter la nuit seul ». Et tant que nous tiendrons ce filet dans la nuit, la dignité tiendra avec nous. C'était « Il était une fois une halte chaleur », un texte de Luc Desjardins, paru le 20 décembre 2025 dans La Presse.